Parmi vous, je me sens pas seul comme petit Alsacien à Paris parce qu'il y a deux Alsaciennes au fond de la salle qui ont vécu au Mans, dans la même petite ville en Alsace du Nord que nous, que vous connaissez malheureusement pas. Il s'agit de Wissembourg. C'est pas le Luxembourg, c'est Wissembourg. Je pense même que le directeur de ce culte, David, mon épouse m'a insufflé qu'il était peut-être un jour campeur dans un de mes camps, au Satell. Tu avais peut-être cette taille-là? Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. David vous a déjà bien aiguillé en Luc chapitre 4, les versets 1 à 13. Luc 4, les versets 1 à 13. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. Le diable le conduisit plus haut, lui montrant un instant tous les royaumes de la terre habités, et lui dit, je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Chers frères et sœurs, nous rêvons tous à un moment donné notre vie d'être quelqu'un d'autre ou de vivre dans une situation différente. Je voudrais enfin trouver un conjoint afin que je ne sois plus seul. J'aimerais avoir le pouvoir de guérir ma sœur malade. Je ne voudrais plus me battre contre mes péchés. Je voudrais avoir cette force surnaturelle du Saint-Esprit entière qui me permet de dépasser toutes les épreuves. Je ne voudrais plus être exposé aux tentations. Je voudrais être un tout petit peu plus intelligent, un tout petit peu plus célèbre et avoir un peu plus d'argent. Quitter ma peau, c'est le titre de mon message. Quitter ma peau, comment gérer les tentations? Jésus était dans une telle situation, il aurait pu quitter sa peau de fils de Dieu, il aurait pu abandonner sa vocation d'apporter le salut du monde aux hommes. Là, il se trouve juste au début de son ministère. Ce récit est dans la suite des récits de l'enfance. Jésus se montre pleinement homme. Sa tentation particulière, retourner au ciel, et abandonner son œuvre de salut qui a commencé par son incarnation, devenir quelqu'un d'autre et quelquefois aussi notre tentation en tant qu'homme. On aimerait abandonner notre état inconfortable d'homme limité, ne plus être tenté, ne plus croire sans voir, ne plus succomber au péché, vivre la plénitude de l'esprit total maintenant. Et toi ce matin, qui aimerais-tu être? Pourquoi voudrais-tu quitter ta peau actuellement? Et quelle est ta tentation actuelle? Nous nous posons les questions suivantes au cours de ce message. Nous allons voir de près le contexte de la tentation, ainsi le contenu, l'origine et finalement la gestion de la tentation. Commençons par le contexte, premier point. Jésus se trouve ici après son baptême, mais cette affirmation de son Père au début de son ministère public, « Tu es mon Fils bien-aimé ». Et après ce sommet de l'affirmation de son Père, commence la tentation. Avez-vous déjà observé, chers frères et sœurs, dans quelle situation vous êtes tentés? Quelquefois, pour nous, c'est la même chose. Après avoir vécu quelque chose de grand avec le Seigneur Jésus, tout d'un coup, nous sommes tentés et nous sommes très surpris. Tu seras aussi tenté, et tu es tenté quand tu es consacré au Seigneur Jésus. Quand tu consacres ta vie entière au Seigneur Jésus, ça fait partie de la vie normale en tant que chrétien. Et si tu es jeune dans la foi, ça perturbe. Parce qu'on a vécu la paix du pardon, la joie de cet amour indescriptible. Et tout d'un coup, il y a cette tension en nous que nous découvrons. Je voudrais te rassurer ce matin. Des chrétiens sans tentation sont des chrétiens spirituellement morts parce que tu ne seras plus intéressant pour l'adversaire de Dieu. La tentation, détends-toi, fait partie de chaque vie chrétienne normale. Celui qui se croit fort doit faire attention qu'il ne tombe pas. Le passage commence avec une indication difficile pour un théologien. Qui dirige Jésus dans la tentation?
Le Saint-Esprit.
Oui, mais j'aurais préféré, moi, ici, le diable. J'aurais voulu arracher cette page de ma Bible. Ça complique les choses au niveau théologique. Qui tente? Qui a l'origine de la tentation? Mais ça, je laisse ensuite à mon pasteur ici de poursuivre cette réflexion. Elle est bien trop compliquée pour moi. Mais c'est le Saint-Esprit qui dirige Jésus dans le désert. Il permet la tentation comme une épreuve utile. Et à la fin, le diable part, mais il reviendra de nouveau. Ça ne s'arrête pas, la tentation. Est-ce que tu as compris cette une des premières leçons de la vie de disciple, que la tentation fait partie de la vie du disciple normal? Ou est-ce que tu rejettes ça? Tu ne veux pas avoir ça dans ta vie? Alors nous allons dire ça à haute voix, paraissait mieux, comme ça n'arrive à retenir les choses, cette phrase, la tentation fait partie de la vie chrétienne normale, en tout cas ceux et celles qui sont convaincus. Alors, la tentation fait partie de la vie chrétienne normale. Hein? Tout le monde a participé? Ça, c'est la première leçon à prendre si on veut apprendre à gérer la tentation. Que tu te dis, je suis normal. Et figure-toi, je vais faire un petit scoop, ton frère à côté de toi ou ta sœur à côté de toi, il traverse les mêmes tentations. Ne pense surtout pas que tu es le seul à traverser cette épreuve. Ah, mais non. C'est banal. Il traverse les mêmes tentations comme toi. Donc ça, c'est le contexte. Deuxième point, le contenu de la tentation. ce ne sont pas des tentations dites morales qui sont décrites comme le mensonge, l'adultère ou le vol ou que sais-je. Non, 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 non. On caricature la tentation comme on caricature aussi l'adversaire de Dieu. Les dangers que nous percevions ne sont pas forcément les plus périlleux. Regardons de près ces trois tentations. La première tentation, c'est la tentation religieuse. Pour l'économiste, c'est le pouvoir économique, selon Jacques Ellul. C'est la tentation de pouvoir opérer des miracles, d'avoir une force surnaturelle. Et pour Jésus, ce serait s'affranchir de sa condition terrestre, revenir sur l'incarnation et abandonner son sacrifice au salut. Et Jésus dit, il y a des choses bien plus importantes que la nourriture. La parole de Dieu est prioritaire. C'est ça qui me porte en premier et en dernier. Et pour nous, ce serait aussi quitter ma peau, ne plus être à la fois pécheur et juste, quitter le chemin de la sanctification, quitter l'école de la foi. Deuxième tentation, c'est la tentation du pouvoir. Tentation religieuse, tentation du pouvoir. Vouloir dominer le monde, selon Jacques Ellul, le pouvoir politique. Ce serait donner au diable ce qui appartient à Dieu. Le diable est ici un usurpateur. Il se présente comme représentant de Dieu. C'est un jeu subtil. Et la réponse de Jésus, le règne de Dieu ne sera pas imposé par la force, mais seulement par la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Pour nous, aussi en tant que disciples, ce sera toujours à nouveau reconnaître que les choses essentielles viennent seulement de Dieu qui peut le faire, et pas nous. Donc, maintenir cette distinction entre le Dieu Saint et nous les hommes. Cette frontière, elle est quelque part floue dans le milieu évangélique. Et la troisième tentation, après la tentation religieuse, la tentation du pouvoir, c'est la tentation spirituelle. Se jeter dans le vide et être protégé par les anges. C'est la tentation d'instrumentaliser Dieu. Selon Ellul, c'est le pouvoir spirituel. Ici, l'intervention et la protection doivent être automatiques. Ben oui, Dieu, il peut envoyer ses anges, il peut rattraper ce Jésus qui tombe, yo, sans problème. Mais ça signifierait qu'on instrumentalise Dieu. Et Jésus donne comme réponse que les promesses de Dieu sont valables dans les chemins de Dieu. On ne peut pas opposer la bonne volonté de Dieu à sa souveraineté. Je répète, évidemment, c'est possible. Nous avons un Dieu tout-puissant qui peut tout faire. Mais ce n'est pas un automatisme. On ne peut pas opposer la bonne volonté de Dieu à sa souveraineté. Phrase difficile à apprendre dans la vie des disciples. Et pour nous, ce serait manipuler Dieu et sa parole pour mes petits objectifs à moi. Je résume, les trois tentations sont, premièrement, gérer la puissance de Dieu. Deuxièmement, le pouvoir de Dieu, gérer le pouvoir de Dieu. Et troisièmement, aussi gérer la volonté de Dieu. Le tout sous des prétextes apparemment très spirituels. Et je vais encore davantage focaliser ces tentations sur le mouvement évangélique. La première tentation serait voir au lieu de croire. Deuxième tentation, ce serait imposer le règne de Dieu au lieu de l'annoncer. Et la troisième tentation, c'est manipuler Jésus au lieu de se soumettre à sa volonté. Voici le contenu de la tentation. Maintenant, nous allons plus loin, nous réfléchissons au troisième point sur l'origine de la tentation. Il est nommé ici, donc je peux aussi le nommer. C'est le diable. Qu'est-ce qu'on fait avec lui dans notre société? On l'ignore, on le minimise, on le nie, on fait une caricature. Quand j'étais doctorant à l'université de Strasbourg, j'ai participé à un séminaire, il y en a traité ce thème-là, et le professeur disait, je comprends dans quel sens il a dit, le diable est une invention intertestamentaire. Et tout le monde dans la salle a rigolé, tous ces théologiens. Et moi, j'étais assis sur ma chaise, abasourdi, j'ai pleuré intérieurement, parce que lors de cette semaine-là, à Wissembourg, j'ai dû organiser un culte d'action de grâce d'un jeune homme splendide et brillant qui a mis fin à ses jours. Je n'ai pas rigolé, j'ai pleuré intérieurement. Oui, le diable est une réalité. Et je suis chrétien parce que la Bible, entre aussi, nous montre la réalité de ce monde-là. La vérité a un lien avec la réalité que nous voyons. C'est pourquoi il faut devenir chrétien. Il y a le problème du mal dans ce monde. Il y a un excès de mal. Et les aînés parmi nous ont encore vécu cela pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les frères et sœurs en Alsace aussi, les aînés ont aussi encore vécu l'excès du mal, le mal absolu que nous ne pouvons pas expliquer. Et nous avons cru le dépasser à un moment donné grâce aux lumières, à notre progrès et tout. Mais non. Il y a l'excès de mal, et cet excès de mal est nommé dans la parole de Dieu. C'est le diable qui est à l'origine du mal dans ce monde et on pourrait faire un petit portrait robot du diable juste par ce petit texte-là. Vous imaginez, il connaît la Bible. Première surprise. Deuxièmement, il interprète la Bible. C'est un théologien. Troisièmement, il se présente comme représentant de Dieu. Deuxième tentation. Il croit aux promesses de Dieu. Troisième tentation, il essaye de séparer le Fils du Père. Bref, il ne vient pas avec des grands sabots, mais joue dans le registre de la subtilité. Donc cette description de la parole de Dieu ne correspond pas à la représentation que nous faisons de lui. Le diable est terriblement religieux. Donc notre milieu lui convient parfaitement. Il ne rôde pas sur le trottoir rue Saussure. Ici il rôde. Il imite Dieu. Il connaît mieux que nous la Bible et ses promesses. Il pourrait être assis parmi nous ce matin, ne faisant pas de ce diable une caricature sous peine de succomber à ses ruses subtiles. Quatrième point. Je ne sais pas comment terminer mon message. Je ne sais pas quel titre donner. Est-ce que je vais dire vivre avec la tentation? Ou plutôt gérer la tentation? Ou surmonter la tentation? Qu'est-ce que vous allez me proposer?
Résister.
Moi, j'ai dit s'accommoder à la notion de tentation.
S'accommoder, c'est très intéressant. Quelle autre proposition avons-nous encore?
Vaincre.
Ça, on aimerait tous. Je voudrais vous donner la recette pour vaincre. Je voulais aussi mettre ça, mais après, j'ai dit, mais non.
Dominer.
Oui, ça j'aimerais, mais il y a aussi l'autre réalité, que je succombe aussi. Parce que je dois vous donner une réponse juste avec laquelle vous pouvez vivre en sortant de cette salle. Parce que moi, je peux facilement prêcher sur la tentation. Mais c'est aussi un thème qui me concerne, moi, d'une manière existentielle. Ce sont peut-être tous ces 3-4 propositions à la fois qu'ils ont justes, selon la parole de Dieu. Encore une fois, Et c'est peut-être ça la bonne piste. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit permet la tentation. Ça veut dire, il a un objectif de bonheur pour toi, malgré ou peut-être à travers les tentations. Il n'a pas un objectif de malheur à travers les tentations. Tu as compris cela? Jésus poursuit son objectif d'amour avec toi à travers mon péché, mes tentations, nos souffrances. Son objectif est de nous transformer de plus en plus en son image et ça va à travers des hauts, mais aussi le bas de notre vie chrétienne. Trois conseils pour finir. Les trois tentations nous apprennent trois choses. Premièrement, reste un homme, reste une femme. Deuxième apprentissage, reste un disciple. Et troisième apprentissage, laisse Dieu rester Dieu. D'abord, reste un homme. S'il faut gérer les tentations, il faut reconnaître qu'on est des hommes et des femmes. C'est quelquefois difficile. Les gens prêchent très peu sur l'humanité de Jésus. Apparemment, c'est un thème difficile dans le milieu. Jésus est homme ici, pleinement homme. Il faudrait aussi qu'on accepte ça pour nous, enfants de Dieu. Ça veut dire nous restons des hommes et des femmes qui ont les pieds sur terre. Il faut tenir compte de mon humanité. Prends-toi le temps et d'écrire dans ton carnet la joie et les peines de ton humanité. Ça veut dire, par exemple, vivre une bonne hygiène de vie. Le diable est intervenu quand Jésus était en état de faiblesse physique dans le désert. Il avait faim. Moi, après tant d'années de vie chrétienne, j'ai enfin compris, je devrais un peu mieux veiller sur mon équilibre émotionnel. Je travaille trop. Comme pasteur, j'ai une bonne excuse pour travailler trop. Mais ce n'est pas spirituel non plus. J'ai dû tenir compte que j'étais un homme et devais veiller sur mon équilibre émotionnel. Et ça voulait dire pour moi, je devais sortir tous les jours 30 minutes pour marcher d'une manière rapide ou courir. Je dois m'imposer ça, je n'aime pas ça. J'aime travailler comme ça, d'affilée. C'est une mauvaise habitude. Maintenant, c'est partie de mes 5 objectifs de l'année. Je n'ai pas réussi ça il y a 3 ans. Maintenant, je l'ai remis sur mes objectifs personnels en prière pour moi. Je ne supporte plus autant de réunions comme il y a 20 ans en arrière, où je pouvais faire 2 entretiens personnels, encore 2 réunions d'affilée. Je ne supporte ça plus au niveau émotionnel. Et de temps en temps, je prends même une chambre d'hôtel. Je n'ai plus de force le soir encore. Quand je suis en déplacement, je ne dors plus chez les gens. Mais sans chair. Oui, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus, je ne vais pas sauver perspective. Je suis un homme faible et limité. Et c'est bien ça. Je suis à ma place comme ça. C'est la plus grande tentation, devenir Dieu, et notre société excelle là-dedans. L'homme-Dieu. Dieu, on écrit petit man en France. Quelle misère! Et l'homme, on écrit en grand. Quelle misère. Ne plus vouloir quelqu'un d'autre, mais accepter ma condition humaine, ton histoire peut-être difficile, mais peut-être aussi ton histoire belle. Accepter tes limites, connaître tes faiblesses, les sources de tentation. Après 10 ans de vie chrétienne, tout doucement, je sais où le diable a essayé de commencer à te titiller. Et le partager, et le dire peut-être à ton conjoint, et peut-être aussi un ami qui est ton confident. Certains parmi nous ce matin devraient peut-être enfin accepter cette maladie, cette épreuve qui traverse cette faiblesse. Non, il n'y a pas victoire dans tous les domaines. Non, ce n'est pas ça ce que la parole de Dieu enseigne. Je dis ici un non brutal et abrupt. Sinon, nous prêchons des illusions et nos disciples se brisent dans leur quotidien et commencent à vivre dans un système hypocrite du dimanche matin souriant et le lundi où c'est plus souriant. Non, il est temps peut-être pour toi d'accepter cette maladie, cette épreuve. Prends-la de la part du Seigneur et dis-lui, oui, aujourd'hui j'ai compris. Je vais accepter cela. Deuxième conseil, reste un disciple. Et un disciple là aussi, là c'est un peu l'influence du Thurien de l'Alsace qui joue, nous sommes à la fois hommes et pécheurs. Nous sommes déclarés justes. Mais la justice ne signifie pas une perfection morale. Nous ne sommes pas justes au sens moral. Ça aussi, ça joue un grand tour dans nos milieux. Non, tu resteras pécheur jusqu'à la fin de tes jours. Et tu auras besoin de prier tous les jours le Notre Père. Pardonne nos péchés tous les jours. Il faut avoir un avis réaliste de la vie chrétienne. Le péché fait encore partie de ce monde et aussi de ma vie. Et l'état normal du disciple, c'est croire sans voir. Ne voyant que très peu de choses se réaliser. Et les réalités spirituelles, que moi je suis aimé par Dieu, je ne le vois pas. C'est une réalité biblique que je crois. Il faut connaître davantage la Bible que l'adversaire de Dieu. Il faut que je l'interprète mieux que lui. Le diable veut diviser le Père du Fils, de même il veut nous isoler des autres enfants de Dieu dans la tentation. Rester disciple signifie, dans le contexte de la tentation, c'est rester dans l'Église, parce que seul tu ne pourras pas surmonter les tentations. Seul tu pourras peut-être te dire tes péchés sont pardonnés. Tu ne pourras pas prendre la Sainte Seine seule. Tout ça, c'est communautaire. Donc, cherche, s'il te plaît, un frère pour échanger ou une sœur et pratique, comme les jeunes disent maintenant, la redevabilité. Mais quel terme horrible. Ça, c'est tout simplement la confession de péché qu'on a jetée par-dessus bord au XVIe siècle. Ça s'appelle la confession du péché. Si toi, tu veux grandir dans ta vie spirituelle, c'est très simple. Cherche-toi n'importe quel frère, si tu es un homme, ou n'importe quelle sœur, si tu es une femme dans l'Église. Ça ne doit être surtout pas une amie ou un ami, c'est complètement égal. C'est le service que nous... Et vas-y une fois chez cette personne par moi et confesse tes péchés devant Dieu et l'homme. C'est biblique ça, non? Pareil, c'est biblique. Donc si tu veux grandir là-dedans, si tu vaincres tes péchés, si tu veux gérer ta tentation, c'est ça, c'est l'Église. L'Église ne te sauve pas, mais si tu n'as pas d'Église, tu vas perdre le salut. Je le dis aussi fort depuis la période de Covid. Je n'aurais jamais osé dire ça avant. Aujourd'hui, je le dis. Donc, la vie chrétienne ne marche pas seule, et c'est pourquoi on a l'Église du cardinet, qui est géniale. Et finalement, laissant Dieu rester Dieu, lui seul est tout puissant. Moi, je ne peux pas un peu jouer avec sa force. Il est tout puissant et il est celui qui peut produire des miracles seul. Il est Seigneur des Seigneurs. Il peut, mais ne doit pas me garder en vie. Un collègue noir a perdu son beau-frère de 40 ans. Ah oui ? Où est le problème ? Vous pensez que c'est une assurance tout risque ? Un chrétien, laissant Dieu être Dieu. Et pour finir, j'utilise une image de Martin Luther, ce qu'il a dit sur la tentation. J'ai besoin de toi, mon cher collègue Jonathan Vaughan. Martin Luther a dit « N'aie pas peur, ça fera pas mal ». Non, non, somme ça. Martin Luther a dit tout simplement, à travers la tentation, Dieu t'embrasse. C'est peut-être ça l'affirmation centrale de ce texte. Le Saint-Esprit a dirigé Jésus dans le désert. Donc derrière ce moment difficile, derrière ces épreuves, Dieu poursuit
un objectif de bonheur et de bénédiction. Amen.
Amen.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu étais toi-même tenté et ça nous permet aussi de nous parler de ce sujet-là. J'aime pas du tout parler de ça parce que ça me concerne aussi moi. Et toi seul, tu as résisté contre toutes les tentations. Tu étais l'homme par excellence. Et tu as vaincu toutes les tentations. Même la dernière dans le jardin Gethsémané, il t'a pris cette coupe terrible de ton père. Et tu n'as pas renié, tu l'as accepté. C'est grâce à la résistance des tentations, Fils de Dieu, que nous pouvons être sauvés. Ça veut dire que tu nous accordes le pardon tous les jours. Et tu comprends aussi les moments difficiles de notre vie parce que tu les as aussi traversés. Aide-nous à mieux nous connaître. Aide-nous à intégrer ces moments difficiles de la vie de disciple normal. Aide-nous à nous rappeler que ton esprit habite en nous, qui n'est pas loin quand nous sommes tentés. Aide-nous de mieux en mieux gérer ces moments difficiles, en sachant que tu as un but que tu poursuis, un but de gloire, un but de transformation. Et peut-être aujourd'hui, nous voulons aussi te dire merci pour ces moments difficiles que tu permets dans notre vie. Amen.
Amen.
On enchaîne avec quelques nouvelles perspectives, c'est ça ou il y a encore un... D'accord. Quelques nouvelles de notre union d'église perspective. Moi, je suis directeur régional et je m'appelle Jean-Georges Gantenbein. J'habite à Mulhouse. Mon épouse Sabine est avec moi. Elle a pu m'accompagner. Et donc, moi, je suis directeur régional, il y a 4 régions à perspective. Moi, je suis directeur pour l'Alsace-Lorraine, une vingtaine d'églises et d'implantations d'églises. Et je pense que nous vivons très bien la suite de la fusion, la mise en place et la réalisation de la fusion. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'était une grande bénédiction, c'était un grand travail, mais ô combien utile. Et c'était aussi un beau témoignage pour le Royaume en France. Maintenant, peut-être cette année, il y a encore un dernier pas ultime de cette fusion, parce qu'il faut chercher de nouvelles personnes, de la direction. Nous cherchons 3 nouveaux directeurs. Nous cherchons aussi un président. Et ce n'est pas simple. On vit au niveau de la direction aussi, au niveau du Conseil de l'Union. Oui, quelques tensions, parce que où trouver ce monde-là qui veut faire ce job-là, c'est assez difficile. Donc, je vous demande vraiment de prier pour nous. Moi aussi, en principe, j'aurais plus voulu renouveler mon mandat parce que je voudrais aussi préparer mon dernière étape de ministère active. Il faut bien mettre ça en place. Je ne voudrais pas être tenté par un mandat de trop. Et donc, priez pour cela parce qu'il faudrait avoir pour le mois de mai quelques solutions. On a pour parler avec 2-3 personnes qu'on pourrait voir, mais c'est certainement des personnes qu'il faut d'abord introduire, former pour prendre ces postes-là. Nous avons besoin de beaucoup de monde. On n'a toujours pas assez de collaborateurs. On cherche des importeurs, des hommes et des femmes, et des collaborateurs, des assistants pastoraux, des assistantes pastorales. Donc tout est possible. On s'adapte à vous, les jeunes. Hein? On est là pour vous. Et vous pouvez travailler à mi-temps comme chauffeur de taxi de nuit et l'autre à mi-temps, ou à mi-temps comme trailer et l'autre à mi-temps comme implanteur. Voilà. On est ouvert à tous, on s'adapte à vous. Voilà. Donc, il faut prier maintenant pour le congrès qui aura lieu au mois de mai. Il faut aussi prier peut-être pour les collaborateurs qui traversent aussi des tentations. tiennent bon. Moi, j'ai perdu dans ma région 2 ou 3 collaborateurs, aussi à travers différents assauts de l'adversaire. Le Seigneur en fait tout pour nous enlever, nous, les litères. Il est très subtil dans ce domaine-là. Voilà. Avez-vous encore des questions? Vous savez où est Vissembourg? C'est vrai? Non, c'est pas le Luxembourg, attention, parce qu'à Mulhouse, ils m'ont dit « Ah, tu viens du Luxembourg ». Mais non, j'ai dit de Vissembourg. Oh là là,
c'est... C'est à côté de Combrachaux.
Oh là! Oh, c'est aussi un Alsacien, alors si tu en parles, j'ai tout de suite reconnu. C'est la madame qui est de Combrachaux, c'est ça? Ah là. Ben, vous n'avez que des Alsaciens expatriés, quoi? C'est la moitié, c'est ça? C'est la moitié droite, là, c'est ça? Eh ben, voilà, donc j'ai joué en terrain connu. Très bien, que le Seigneur vous bénisse dans vos projets, qui permet une croissance et aussi d'autres importations à Paris.
Merci Jean-Georges. Donc on arrive à la fin de notre culte. On va donner aussi des annonces plus locales et plus immédiates pour ceux qui veulent... continuer à étudier l'Apocalypse, dont on vient de lire un petit peu. Il faut venir à l'étude biblique le mercredi, une fois sur deux. C'est pas cette, c'est, si.